Séquence protestante. La valeur de l'homme. Emmanuel Taïeb.
Ne pas désespérer du monde. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence Protestante pour cette première émission de la saison. Parmi les effets de la mondialisation, il en est un qui est inattendu. C'est l'obligation faite aux citoyens contemporains de penser désormais à l'échelle du monde. Recevant des nouvelles souvent inquiétantes d'ailleurs de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, il est obligé, s'il se veut éclairé, d'avoir quelque chose à en dire. C'est ainsi que naissent sous nos contrées nombre de spécialistes du conflit syrien, du conflit israélo-arabe, des relations sino-africaines ou du Brexit. Mais plus sérieusement, le flux d'informations ayant tendance à se concentrer sur ce qui va mal dans le monde et sur la violence, l'impression s'est installée d'un monde plus instable que celui du 19e siècle ou plus dangereux que celui de la guerre froide. Au point même de croire que les relations entre les hommes sont absolument déréglées et non plus que la forme du terrorisme, des bombardements, des guerres civiles et des déplacements de population. Il existe ainsi un pessimisme historique ou une collapsologie en relations internationales, comme elle peut exister dans d'autres discours, par exemple dans le discours écologiste. De nombreux indicateurs permettent d'être beaucoup plus optimistes. En un quart de siècle, plus d'un milliard de gens sont sortis de l'extrême pauvreté. L'accès à l'eau potable a été décuplé. La mortalité juvénile a diminué de moitié. La place des femmes en politique a augmenté partout dans le monde et le nombre de victimes du terrorisme s'est aussi réduit. Plusieurs grandes puissances ennemies ne se font plus la guerre que de manière indirecte et sans aller vers une escalade incontrôlée. Partout, Internet et les réseaux sociaux sont des contre-pouvoirs qui gênent les régimes autoritaires, voire participent de leur renversement. Mais ces phénomènes massifs sont parfois délicats à observer au niveau individuel et le retour brutal de la violence a vite fait de les balayer. Or, c'est précisément parce que la violence a diminué tendanciellement que son retour, même résiduel, nous fait horreur. Les guerres doivent désormais faire zéro mort, être légitimes dans leur conduite, et l'État ne doit jamais faillir à nous protéger, surtout s'il semble déployer un impressionnant dispositif sécuritaire. C'est bien alors notre sensibilité à la violence qui nous afflige quand elle ressurgit. Pour contrer cette tendance, il est possible d'avoir quelques motifs de se réjouir d'un monde sans doute moins dangereux et moins violent aujourd'hui qu'hier. C'est ce que nous allons voir avec mes invités, Sonia Le Gourielec et Benjamin Houdet. Bonjour Sonia Le Gourielec.
Bonjour.
Sonia Le Gourielec, vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Vous êtes spécialiste de relations internationales et des conflits en Afrique. Je vous reçois aujourd'hui pour un livre que vous avez coordonné et qui s'intitule « Notre monde est-il plus dangereux ? 25 questions pour vous faire votre opinion ». C'est sorti chez Armand Collin en 2017. Bonjour Benjamin Houdet.
Bonjour Emmanuel Taïeb.
Benjamin Houdet, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Poitiers, spécialiste du renseignement contemporain et vous travaillez particulièrement sur les coopérations internationales dans le cadre du contre-terrorisme et des opérations militaires multilatérales. Vous signez dans l'ouvrage de Sonia Le Gourielec une contribution qui est intitulée « Les espions n'ont-ils rien de mieux à faire que de nous surveiller ?» Vous répondrez à cette question tout à l'heure et vous sortez là, ces jours-ci, une deuxième édition augmentée de votre livre avec Olivier Chopin qui s'appelle « Renseignement et sécurité ». C'est également chez Armand Collin. Alors question à tous les deux, peut-être à Sonia Le Gourielec pour commencer puisque vous coordonnez l'ouvrage. Comment vous est venue l'idée du livre et en particulier cette idée de question-réponse ?
Alors c'est venu... Peut-être d'un agacement commun, justement, avec des collègues, pas uniquement des collègues chercheurs, comme on peut le voir dans l'ouvrage, des journalistes, des experts, des militaires, etc. D'un agacement face, finalement, à un problème de hiérarchie dans la valeur des propos des personnes qui s'expriment. Et les spécialistes sont souvent moins entendus, moins écoutés, je ne sais pas. Et du coup, on entendait beaucoup dans les médias des choses qui nous paraissaient fausses en relations internationales. Et on s'est dit, on va tous se réunir et écrire sur nos spécialités que ce qu'on entend, ce sont souvent des choses fausses, des préjugés. Et donc, on voulait aller au-dessus de ça.
D'accord. Il y a l'idée de, au fond, de réinstituer un discours, mais qui n'est pas que le discours académique qui a sa légitimité, mais aussi de dire il y a des experts qui travaillent sur ces questions, donc on va faire entendre une polyphonie d'expertise.
Exactement. D'ailleurs, le propos n'est pas... on ne se perd pas dans des mots compliqués. Il n'y a pas énormément de notes de bas de page. Un peu d'humour. J'ai demandé à ce qu'il y ait parfois ce second degré aux auteurs pour que ce soit accessible à tout le monde et montrer que, en fait, l'expertise n'est pas inaccessible et elle est accessible à tout le monde. On a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde de prénotions, de préjugés. Chacun a son idée sur les choses. Les débats ont lieu en 140 signes ou un peu plus sur Twitter. Et bien non, il y a des choses qui sont compliquées, qu'on peut expliquer simplement, mais il y a des experts en fait qui travaillent depuis des années sur ces questions et ils sont accessibles.
Donc vous avez là dans l'ouvrage 23 contributeurs différents. Alors il y a des universitaires, il y a des journalistes, il y a des militaires, il y a des consultants et vous avez même un ancien de la DGSE. Peut-être question subsidiaire, pourquoi entrer par la question de la dangerosité? Vous aviez l'impression que dans le discours médiatique dominant, c'était l'idée que les relations internationales étaient systématiquement guerrières et aggravées.
Effectivement, c'était cette idée qu'on était, le monde est toujours au bord du gouffre. On a l'impression qu'on n'a jamais été si près d'une guerre mondiale, la troisième guerre mondiale arrive. Et en fait, en y regardant d'un peu plus près, tout simplement en objectivant, parfois même avec des chiffres, ça n'est pas suffisant, bien sûr, mais en objectivant, comme vous l'avez dit dans l'introduction, eh bien non, en fait, il y a moins de guerres. Je fais partie d'une génération, même la génération de mes parents n'a pas connu la guerre, n'ont pas connu la guerre. Et donc, c'était de rappeler un petit peu ces choses-là. Et puis, on s'est rendu compte que des ouvrages de Pinker, un ouvrage qui est sorti, Factfulness, il n'y a pas très longtemps, sont des ouvrages en anglais qui, parfois, ont mis des années à être publiés en français. Donc, pourquoi ce refus de...
Qui sont des ouvrages plus optimistes.
Donc, l'un, c'est La part d'ange en nous, donc sur le fait qu'il y a un peu moins de violence qu'on ne le croit. Et donc, c'était d'exprimer ça. Aussi parce qu'en amphithéâtre, avec les étudiants, je me rends compte que même eux, qui ont 18 ans, sont pris par ces discours et n'entendent pas que, en fait, les choses vont un peu mieux qu'on ne le croit. Et puis, surtout, je ne voulais pas que ça tombe dans une forme d'optimisme béat, qu'on dise « Ah, bah, l'universitaire qui est déconnectée, elle n'a pas compris, elle ne voit pas le monde. » Et en fait, on a le choix qu'entre « c'était mieux avant » ou voilà, cet optimisme béat. Bah, y a un entre-deux, c'est possible. C'est juste, je ne nie pas que les choses se passent mal, qu'il y a du réchauffement climatique, qu'il y a des raisons d'être pessimiste et on y reviendra. Mais en fait, il y a moins de guerres, effectivement. Il y a moins de morts. Le terrorisme, pour prendre un exemple, est dramatique. Il a touché directement la France. C'est dramatique. Mais en fait, la durée de vie d'un groupe terroriste, c'est 7 à 9 ans. Donc, il y a des cycles, ça passe. Et en fait, les gens les plus touchés par le terrorisme ne sont pas ceux qu'on croit. C'est souvent aussi les musulmans dans des pays qu'on connaît moins, qu'on a moins accès à la télévision. Et donc, c'est juste rappeler ça, en fait, les préjugés qu'on peut avoir en relations internationales et les combattre.
Et alors, mais d'où vient cette idée, au fond, qui a l'air de présider à la vision qu'on a des relations internationales, que le monde est dans un état catastrophique? Comment ça s'est développé? C'est lié à une focalisation sur le terrorisme? C'est lié à une focalisation sur la violence? Benjamin Houdet.
Oui, alors je pense que votre question est tout à fait fondamentale. Ça renvoie à une des grandes catégories d'interrogation du champ des relations internationales, qui s'est d'abord structurée avant tout, et là je schématise, mais c'est quand même la question de fond, sur l'idée que c'est avant tout la guerre qu'il faut étudier, parce que c'est la guerre qu'il faut éviter. Et que c'est la grande question depuis le début des relations internationales, qui se sont structurées dès la fin de la Première Guerre mondiale, avec l'idée qu'il faut étudier la guerre de manière scientifique, de manière académique, pour réussir à l'éviter. Dans ce contexte-là, la paix est un peu le parent pauvre des études pendant très longtemps, où elle est considérée que comme un état un peu négatif ou un état intermédiaire entre des phases de guerre. Mais en tout cas, il y a cette idée qui parcourt toute la littérature des relations internationales, qu'au fond, comme le dit Aron, elle se déroule à l'ombre de la guerre. Bien que la paix soit l'idéal régulateur des relations internationales, c'est avant tout la guerre qui en est la grande question. Cette vision-là, elle se retrouve dans les titres de nombreux ouvrages. Je pense à l'ouvrage de John Mersheimer sur la tragédie des grandes puissances, que de toute façon, il y a des grands cycles historiques, qu'il y a sur le temps long l'idée que c'est la violence armée, en tout cas la violence entre groupes organisés, entre entités politiques, qu'elles soient des États, des chefferies, des principautés ou des cités, eh bien qui est la question fondamentale. Donc je pense que à cette aune-là, on peut dire que si nous avons une vision catastrophiste, eh bien c'est le reflet de l'idée que c'est la guerre qui est la question fondamentale. Et puis il y a une autre, à mon avis, une autre dimension sur ce point-là, sur la dimension un peu catastrophiste du commentaire que nous faisons et de la perception que nous avons, c'est d'une part, eh bien, que seules les mauvaises nouvelles nous parviennent. C'est évident de le dire, mais en tout cas, comme disait l'autre, on ne se pose jamais la question des trains qui arrivent à l'heure. Et le deuxième point, je pense, c'est qu'il y a une vision extrêmement personnaliser des rapports interétatiques. C'est-à-dire qu'on pose la question des bonnes relations entre Monsieur Trump
président,
et Monsieur Macron,
Poutine et Trump.
Entre Poutine et Trump, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils s'entendent pas bien, est-ce que d'un seul coup, à coup de petits tweets, eh bien la relation se dégrade. On est dans du commentaire médiatique extrêmement personnalisé, qui s'intéresse avant tout aux relations interpersonnelles, mais qui ne rend pas compte de l'extrême complexité et de l'extrême diversité de ce que sont les relations complexes, les interdépendances complexes, comme disent les spécialistes, entre les pays. On peut y voir là un retour du prince, comme le disent certains ouvrages récents, c'est le retour des princes, mais on peut aussi y voir le signe, à mon avis, un peu plus inquiétant, j'allais pas dire pathologique, mais en tout cas plus significatif, le symptôme de quelque chose qui serait le retour, et en tout cas la fin, d'un des grands mouvements qui a été celui de la philosophie politique et de la théorie politique moderne, c'est-à-dire de dépersonnalisation de l'État et d'institutionnalisation de l'État. Nous nous en remettons au prince, nous nous en remettons à la figure du grand dirigeant, et bien pour nous gouverner, c'est ce qui pose des problèmes, parce que ça nous empêche de voir les tendances lourdes et les tendances de fond qui structurent vraiment les relations internationales.
Alors Benjamin Audet, vous avez dit pathologique. J'ai aussi eu le sentiment en lisant l'ouvrage, je pense en particulier à un article d'Yves Trottignon, que on a un rapport d'analyse très compliqué à la violence en général et qu'on a tendance à psychiatriser la violence, c'est-à-dire qu'au fait on ne la comprend plus et qu'on ne la remet plus dans son contexte politique. Donc c'est-à-dire aussi c'est une violence, par exemple la violence terroriste, qui nous arrive sans qu'on puisse au fond la traiter.
Sans qu'on puisse la traiter. Et effectivement, vous évoquez les articles de Yves Trottignon. C'est sa grande thèse et c'est ce qu'il démontre à longueur d'articles. C'est qu'au fond, notre incapacité à penser le sens de la violence pour les gens qui la perpétuent ou en tout cas qui en font un usage instrumental nous permet de penser raisonnablement et rationnellement un cadre d'action publique, que ce soit en matière de sécurité ou de défense, mais plus largement en matière d'éducation, en matière d'économie ou autre, et bien de penser un cadre d'action qui réponde précisément à ce pourquoi ces gens font ce qu'ils font. Et c'est ce qu'il montre très bien. Il dit, quand nous considérons que ces gens-là sont des barbares, ça en dit plus sur nous que sur eux finalement. Parce que ça veut dire que nous nous empêchons et nous nous refusons à vouloir penser cette violence-là, en disant, cette violence est irrationnelle, elle ne répond à rien, ils sont incapables de formuler une pensée stratégique. Or, ce qu'ils montrent très très bien, et ce qui de plus en plus maintenant est validé par les recherches qui sont en cours et qui ont déjà été publiées, c'est qu'il y a des corpus doctrinaux qui sont de qualité inégale, mais qu'en tout cas, il y a des corpus où les groupes terroristes ou d'autres groupes violents expliquent leur vision du monde, ce pourquoi ils font ce qu'ils font, leur doctrine, leur stratégie,
leurs ambitions,
tout ça, leurs ambitions politiques, religieuses, sociales, culturelles, ils expliquent tout ça et que le refus de vouloir le penser est un vrai problème pour la formulation d'un cadre d'action publique. Et je pense qu'on a vécu un petit traumatisme, un grand traumatisme social à partir de 2012 et 2015 et des attentats. Mais du côté des sciences humaines et sociales, il y a eu un petit traumatisme aussi avec la phrase malheureuse qui avait été prononcée par l'ancien Premier ministre Manuel Valls en disant que finalement la sociologie est une forme de validation, de justification ou d'explication de causes profondes qui finalement justifierait la violence terroriste. Et là, à mon avis, il y a un grand malentendu qui s'est développé à cet endroit-là, qui n'invalide pas complètement la thèse du Premier ministre, mais qui d'un côté ne doit pas nous faire renoncer en tant que spécialiste de sciences humaines et sociales à la compréhension, qui n'est pas du tout une forme de justification, mais à la compréhension profonde de ce pourquoi les gens font ce qu'ils font. Voilà.
Avant qu'on examine les raisons d'être optimiste dans les relations internationales, est-ce qu'il y a quand même quelques raisons objectives d'être pessimiste? Alors selon les uns et les autres, ou la lecture qu'on peut avoir du monde social, le recul des États-Unis par exemple comme acteur régulateur des relations internationales, la montée en puissance d'États autoritaires ou de groupes armés violents qui sont transnationaux, ça c'est quand même des phénomènes qui peuvent être un peu inquiétants, objectivement, Sonia Le Gourielec.
Alors effectivement, ce qui est inquiétant, qui nous inquiète, c'est une forme d'anomie du système international qu'on ne puisse plus qualifier. Effectivement, on est sorti de la période bipolaire et à partir de là, on n'a plus réussi à véritablement analyser, à donner du sens à ce système. Et donc, c'est une forme d'incertitude qui nous inquiète, qui nous angoisse et qui peut nous rendre pessimistes sur ce système. Oui, c'est le retour des nationalismes en politique étrangère. C'est tu en parleras peut-être, Benjamin, les démocraties libérales, etc. Donc oui, ça, on a l'impression de vivre une forme de recul alors que... Et qui effectivement, qui nous rendrait pessimistes. Néanmoins, comme vous l'avez dit dans l'introduction, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui ne sont pas médiatisées. Et donc là, on a aussi un biais médiatique et un biais cognitif.
Ouais, qui les trains qui n'arrivent pas à l'heure, les mauvaises nouvelles.
Exactement. Voilà. Et qu'on s'intéresse à ce qui ne va pas. Et on a tendance même à prendre pour des fous les gens qui, donnent, qui vont donner une donnée et une analyse qui diffèrent justement de cette opinion générale et qu'on a du mal à les entendre, ces personnes-là.
Mais... Oui, c'est une discussion régulière que nous avons avec Sonia. C'est au fond, le pessimiste passe son temps à interpréter les signes politiques ou autres qu'il voit comme étant eh bien, la confirmation du déclin généralisé qu'il lui-même prétend analyser.
Comme le complotiste.
Comme le complotiste d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il passe leur temps à voir des signes qui confirment leur propre biais, qui confirment leur propre croyance.
Il y a une contribution dans l'ouvrage de Marie Pelletier.
De Marie Pelletier d'ailleurs qui démontre très bien ça, c'est-à-dire que de toute façon, eh bien, la puissance de certains schémas narratifs, la puissance de certains complots fait que de toute façon, à la fin, on ne peut pas complètement, enfin chez les personnes qui les portent, ne peuvent pas être complètement, qui est au fond une forme de croyance. Ce que n'est pas une thèse au sens où l'entend... ou l'entendre les sciences sociales. Mais l'autre point, c'est que face à la profusion des discours, le pessimiste, lui, passe le temps à chercher les signes qui invalident sa position, mais l'optimiste, lui, ne passe pas son temps à chercher justement les signes de bonnes nouvelles. D'où sa difficulté à faire entendre un discours qui peut paraître dissonant, qui peut paraître un peu nouveau ou alors hétérodoxe, mais en tout cas, il passe pas son temps à chercher les signes, de bonnes nouvelles. Et c'est, je crois, c'est le grand mérite de ce que démontre Jean-Jacques Roche dans l'introduction de l'ouvrage, c'est que cette évolution, en tout cas cette amélioration, elle peut être quantifiée par des indicateurs assez précis. Ça ne résout pas complètement le problème de pourquoi, en présence de ces indicateurs plutôt positifs, nous avons quand même la perception que la situation se dégrade. Ça ne résout pas complètement le problème de perception à ce niveau-là. Mais en tout cas, je pense que c'est tout à fait salutaire de poser la discussion sur les bases qui soient quantifiables. Mesurable.
Ouais. Alors, ouais, je voulais qu'on en vienne quand même à votre propre contribution, hein, Benjamin Houdet, sur la question. Alors, vous expliquez qu'il y a une confusion entre espionnage et surveillance généralisée, ouais. Et que la mauvaise image des espions ou du renseignement viendrait de là. Alors, expliquez-nous.
Encore un
préjugé à détruire. C'est très intéressant. Je pense que Sonia pourrait dire pourquoi elle a souhaité un article sur le renseignement dans son ouvrage, parce que c'est un sujet qui, de plus en plus, bon, on connaît l'actualité médiatique autour des lois, autour des réformes, des services de renseignement, et puis des questions posées après l'affaire Snowden.
Parce qu'en France, en fait, c'est inconnu qu'il existe des intelligence studies qui sont différentes des surveillance studies.
Donc c'était un des points d'études sur le renseignement. Donc de plus en plus, le renseignement devient un objet légitime d'études pour la science politique, pour l'histoire, pour la philosophie, le droit évidemment. Mais j'ai remarqué au moment de l'affaire Snowden et puis dans la phase de 2015 où il y a eu la loi sur le renseignement qu'au fond ça réconciliait trois passions négatives françaises, l'anti-américanisme, l'anti-technologie et l'anti-renseignement. C'est-à-dire qu'il y a ces trois formes de passions qui se sont conjuguées dans l'interprétation qu'on a fait après l'affaire Snowden.
Il manque la vision romantisme de la Russie et de l'Iran.
Il manque aussi ces dimensions-là, évidemment, mais en tout cas, juste sur le point du renseignement, il y a ces trois dimensions qui se sont articulées et il m'appartient pas de les résoudre complètement en disant le renseignement, au fond, c'est pas ce que vous croyez, parce que je suis moi-même pas un officier de renseignement, j'ai jamais appartenu à un service, mais en tout cas de dire, il y a plusieurs registres de discours qui sont portés sur cette question-là. Un discours porté par les études sur le renseignement spécialisé et un autre discours qui est porté par les études de surveillance, qui considèrent au fond que le renseignement est une forme de surveillance parce qu'il a vocation à surveiller la population et à la contrôler. C'était d'ailleurs tous les arguments qui étaient avancés par des associations au moment de la loi 2015 sur le fait que de lancer des algorithmes dont on ne connaissait pas complètement les caractéristiques sur Internet, ça permettait de tracer l'intégrité de la population et donc de la contrôler. Mais je remarquais à ce moment-là qu'il y a un problème sur la notion de contrôle et qu'au fond, on ne peut pas trouver des traces de cette volonté de contrôle dans les grandes doctrines de renseignement et chez les services de renseignement. Pour eux, ils ne veulent pas contrôler la population, ils veulent comprendre des problématiques sociales, économiques, politiques, maintenant environnementales, militaires, stratégiques, sécuritaires, pour informer la décision politique, mais qu'en tout cas, il y a une distance et un delta qui est très intéressant à étudier entre la perception dans la population de ce que sont les services de renseignement et ce pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc l'objectif de l'article n'était pas de répondre à la question « voilà ce que sont en vrai les services de renseignement » puisqu'il ne m'appartient pas de le faire, mais en tout cas de dire et de mettre à la disposition du lecteur les deux grandes positions qui s'affrontent sur cette question et après voilà, que le lecteur puisse faire à partir des quelques références, puisse faire son opinion sur la question du renseignement.
Et vous dites quand même que l'idée générale, c'est d'avoir un maximum de renseignements pour aussi prendre la bonne décision. C'est-à-dire que c'est aussi une aide à la décision, c'est de l'information.
C'est avant tout une aide à la décision, c'est un système d'information qui collecte de l'information de manière assez particulière, c'est sa raison d'être. Le renseignement ne peut pas être un réseau d'informations médiatiques, le renseignement ne peut pas être le réseau d'informations diplomatiques, il ne peut pas jouer sur ce même terrain-là. Il joue sur une catégorie d'informations un peu particulière, qui est l'information secrète, fermée, qu'une entité politique ou autre retranche de la connaissance, sur laquelle elle impose un système de restriction de diffusion. Le renseignement traite de ces choses-là avec des techniques qui sont un peu particulières, qui sont très intrusives, d'où l'idée de les réguler par le droit et de faire un cadre contraignant d'emploi pour ces techniques-là. En tout cas, qu'au fond, le principe, le grand principe, c'est celui d'apporter une connaissance, une analyse à la prise de décision, aux politiques publiques en matière de défense et de sécurité. En aucun cas, et je dois dire que ça c'est un tropisme qui est vraiment très américain, en tout cas le regard que nous portons sur ce que font les Américains, de contrôler l'intégralité de la population mondiale pour à des seules fins de contrôle, ça ne marche pas. Et on le voit très bien, de toute façon, on le voit très bien dans la communication gouvernementale, voire de certains préfets quand il y a eu des attentats ou autres. Au fond, ce qui compte, c'est notre capacité de réaction, de ne pas avoir empêché un événement. C'était pas ça le vrai critère de succès de l'action publique, c'est d'avoir réagi dans les délais les plus courts possibles. On voit bien que de toute façon, l'État est en incapacité de contrôler ces phénomènes-là.
Oui, et de traiter probablement toutes les informations. Absolument. Nous allons écouter la voix de Michel Serres. Il est interviewé par François Bunel dans la Grande Librairie sur France 5, c'était en 2017.
Mon premier souvenir, c'est la guerre d'Espagne. Bon, première guerre. Deuxièmement, par la suite, dès 1939, il y a eu la Seconde Guerre mondiale.
Vous vous en souvenez de cette guerre d'Espagne? Vous aviez 3 ans à l'époque de la déclaration de la guerre d'Espagne.
Oui, parfaitement. Tout simplement parce qu'arrivaient des réfugiés et ils étaient ou blancs ou rouges et racontaient les mêmes horreurs, vous voyez. Bon, puis ensuite la guerre mondiale, puis ensuite les guerres coloniales, puis moi-même quand j'avais l'âge de porter les armes, j'ai dû faire l'expédition de Suez, etc. Donc, toute ma jeunesse était la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Et tout d'un coup, nous vivons en paix. Et nous vivons en paix depuis 60, 70 ans, vous voyez, qui est un intervalle qui n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et donc, nous vivons probablement un moment exceptionnel.
Alors voilà. C'est ce point sur lequel il faut revenir. Vous le décrivez très bien en quelques pages. On n'a jamais eu, en réalité, 70 ans de paix. De manière continue en Europe depuis...
On monte très très loin. Il y a des historiens qui ont fait l'évaluation de ce qui se passait avant, n'est-ce pas? Et il y a même un historien qui a essayé de faire une sorte d'évaluation entre Jésus-Christ et maintenant. Et il s'est aperçu qu'il y avait entre 5 et 8% de temps de paix. D'ailleurs, c'était la guerre perpétuelle. Voyez. Et or, il se trouve qu'en effet... Depuis maintenant, voyons, 60, 65 ans, nous sommes en paix. Et alors, je voudrais dire quelque chose à ce sujet. Si vous tapez sur Internet « cause de mortalité dans le monde », vous allez avoir un tableau de chiffres officiels. Et quelle est la cause de mortalité la plus faible? Eh bien, c'est guerre, violence, terrorisme. Et nous pensons l'inverse. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ce livre, c'est un livre gay, si vous voulez, mais pour dire, voyons... Prenez conscience de la réalité des choses.
C'est-à-dire que malgré l'horreur du terrorisme, malgré la pression que le terrorisme aujourd'hui en France peut générer, vous dites, nous ne sommes pas en guerre. Finalement, c'est un monde meilleur que celui d'il y a 70 ans.
C'est ça.
C'est ça ?
Oui. Et puis d'autre part, en effet, les attentats, ce n'est pas la guerre. Les guerres civiles ne sont pas les guerres, ce qu'on appelle les guerres symétriques, etc. Il ne faut pas oublier quand même que la Seconde Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure, a fait 45 millions de morts. Aujourd'hui, on est très très loin de chiffres pareils.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, ne pas désespérer du monde. Nous sommes en compagnie de Sonia Le Gourielec et Benjamin Houdet. Alors, poursuivons cette émission, mais cette fois-ci en changeant la perspective. C'est quoi les raisons d'être optimiste dans les relations internationales et dans notre monde, Sonia Le Goriélec, Benjamin Houdet, Sonia Le Goriélec?
Ça rebondit parfaitement avec ce que disait Benjamin juste avant. L'optimiste ne comptabilise pas chaque jour. Tiens, c'est une raison d'être optimiste. Je me suis levée ce matin, c'est déjà une raison d'être optimiste. Non, mais en fait, Michel Serres, qu'on vient d'entendre, l'a parfaitement résumé. Je ne sais pas pourquoi on ne l'entend pas plus ou que certains le prennent pour un optimiste béat, justement. Lui, il disait plutôt qu'il était pour un optimisme de combat ou un pessimisme de construction. C'est-à-dire qu'on voit ce qui ne va pas, mais on essaye de construire et d'aller plus loin que ça. Et c'est vraiment cette idée-là. On ne nie pas qu'il y a des choses qui vont mal, mais il y a des choses qui vont bien, comme il le dit. On n'a pas connu la guerre. Des objectifs du millénaire pour le développement de l'ONU, en fait, il y en a beaucoup qui ont été atteints. Et ça peut paraître d'autant plus surprenant que moi, je travaille sur une zone qui connaît beaucoup de guerres.
L'Afrique.
Sur le continent africain, l'Afrique de l'Est, vous avez beaucoup de guerres, vous avez de la pauvreté, vous avez beaucoup de choses. Et quand je vais là-bas, j'ai ma bouffée d'optimisme, en fait. Plus qu'en France. La sinistrose, c'est ici, c'est pas là-bas. et ça, je trouve ça parfaitement intéressant. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a une vision très occidentalo-centrée, européano-centrée du monde, des relations internationales, et peut-être qu'il y a une forme de déclin, j'en sais rien, de nos propres sociétés qui font que ça nous angoisse et qu'on ne comprend pas le reste du monde? Alors, eux nous comprennent, nous, on ne les comprend pas nécessairement. Et quand on voyage un peu, on voit l'évolution du système international, on voit l'évolution des relations internationales. Je ne sais pas vers où ça va, il y a une forme d'incertitude, mais l'optimisme, c'est de voir évidemment que les choses bougent, les choses changent. Moi, à chaque fois que je vais sur mes terrains, chaque année, les pays se sont transformés. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, il y a toujours de la pauvreté, etc. Il y a des infrastructures, il n'y a plus de guerre, ça bouge. Donc, moi, mes raisons d'être optimiste au quotidien, c'est ça, c'est mes terrains qui sont pourtant censés être des terrains compliqués.
Alors, il y a par exemple beaucoup plus, en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne, de coopération. C'est ce que montre par exemple Olivier Schmitt, qui mm-hmm. est prof de sciences politiques au Danemark. Les États coopèrent, les États se parlent et évitent d'aller vers une escalade dans les relations et dans leur interdépendance.
Alors, puisqu'on a cité Raymond Aron, on va continuer sur Raymond Aron, qui lui-même disait déjà à l'époque qu'il y avait une baisse tendance à la réduction justement de la force employée, que ça se vérifiait. Et effectivement, alors bon, c'est vrai que en relations internationales, on a des écoles de pensée, etc. Et qu'il y a une école de pensée libérale qui montre effectivement que l'institutionnalisation du monde, le fait qu'il y ait de plus en plus d'organisations internationales, crée une forme d'interdépendance entre les différents acteurs qui permettent peut-être de réduire justement cette montée aux extrêmes et cette possibilité de guerre.
Et d'ailleurs, les États ne se font plus la guerre directement. Il y a toujours des conflits, mais pas entre grandes puissances.
Il y a très peu de guerres interétatiques aujourd'hui. Donc, il reste encore entre l'Inde et le Pakistan, quelques conflits en Afrique, mais vous avez très peu... Le conflit a lui-même évolué.
Oui. Les spécialistes parlent d'état de violence, maintenant. Une dialectique plutôt de sécurité et de violence plutôt que de guerre et de paix, en disant qu'il y a une paix systémique, mais il y a des états de violence. C'est-à-dire des zones dans lesquelles, effectivement, des groupes non étatiques mènent des actions violentes contre des armées conventionnelles. Je voudrais juste revenir très rapidement sur l'extrait de Michel Serres que vous avez présenté. C'est passionnant et je crois qu'il faut vraiment lui rendre hommage et saluer sa mémoire, parce qu'il a disparu il y a quelques mois. Il nous tient quand même un discours de la méthode sur ce qu'il dit. Il dit « Je ne suis pas un optimiste béat. Regardez, mon optimisme est fondé sur une analyse et sur des faits. Il est fondé sur des études, il est fondé sur la science. Ce n'est pas juste une position morale, une position d'être au monde qui dit « Je suis fleur bleue, je suis optimiste ». C'est vraiment fondé sur de la recherche et sur une compréhension de ce qu'est l'actualité. Et puis on voit bien aussi chez lui l'expérience de la guerre, à quel point c'est structurant. Sur les raisons d'être optimiste, ce qui est déjà un bon point, à mon avis, si déclin il y a, on est conscient d'un déclin. Et nous nous posons perpétuellement la question de notre optimisme. Toutes les époques se sont un peu pensées comme étant en déclin. Donc nous le savons et nous donnons les moyens de réagir. Et puis Sonia et moi enseignons à l'université et je dois dire que le contact avec les étudiants et les étudiantes est extrêmement intéressant à ce niveau-là, parce qu'on sent un vrai désir et une vraie appétence pour les sciences sociales, pour la compréhension des phénomènes politiques internationaux. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un point d'optimisme assez fort.
Donc entre votre propos et Michel Serres, c'est un vrai manifeste pour les sciences sociales. Merci à tous les deux. Cette émission s'achève. Je rappelle le titre de l'ouvrage pour lequel je vous recevais. Notre monde est-il plus dangereux ? 25 questions pour vous faire votre opinion. C'est sorti chez Armand Collin en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. Attention, à partir du mois prochain, samedi 5 octobre, La Valeur de l'Homme sera désormais diffusée à 13h15 et durera 45 minutes. À bientôt.